Est-ce que vous avez, avant de parler de ces différences-là, est-ce que vous avez vu, à partir de ce moment-là, des ressemblances dans ce qui ferait le typique de la situation des immigrés, et en parlant des femmes en particulier?
Alors, ce que fait les ressemblances, c'est surtout le fait que le choix ne vient pas d'elles, à l'immigration, que les conséquences, au cas de la perte du permis de mari, sont les mêmes pour les unes pour les autres. Et ça, c'est très mal vécu pour les unes pour les autres. Alors, là où j'ai vu des similitudes aussi parmi les migrations, c'est dans la difficulté d'intégration dans ces pays. Vous savez, les hommes, ils viennent avec un poste de travail donné, dans une entreprise donnée, où il y a déjà d'autres ouvriers. La plupart des temps, les femmes, ou bien ils viennent des cultures où l'accès au travail est refusé, et ensuite, les femmes sont reléguées, surtout dans des emplois du nettoyage, dans les premières années d'arrivée, hein, ce sont celles qui marquent en fait après tout le déroulement de l'immigration. Si tu as une bonne impression dans ton arrivée, tu pourras plus facilement faire partie d'une communauté avec beaucoup plus de possibilités. Alors ils sont toujours cantonnés ou bien dans les travaux dans les maisons privées ou bien dans les travaux de nettoyage la nuit, souvent seuls, donc sans possibilité réelle de parler la langue du pays, donc d'y apprendre. Et puis, c'est évident que la double journée de travail, pour les femmes, c'est une réalité, et pour les femmes immigrées, c'est une réalité encore plus forte.
Vous parliez de différences de traitement importantes entre l'origine, les gens, les immigrés qui viennent de pays différents. Est-ce que cette façon de traiter différemment les immigrés suivant d'où ils viennent a des répercussions sur les femmes en particulier ?
Si, ça a des répercussions sur les femmes, surtout sur les femmes. D'abord parce que les années qui ont passé loin du mari ont été différentes. Souvent, par exemple, pour les femmes yougoslaves ou turques, le parcours du saisonnier était beaucoup plus long que pour les immigrants d'autres pays tels que l'Italie ou l'Espagne ou même le Portugal actuellement.
Vous voulez dire que, par exemple, le temps pour obtenir un permis B qui permet la réunion de la famille a été différent pour l'immigration espagnole, italienne, etc., qu'elle l'est pour les travailleurs aujourd'hui venant de Yougoslavie, du Kosovo, etc.
Tout à fait, parce que la plupart d'entre eux, leur saison n'a jamais été complète. Ils sont passés dans l'immigration 10 et même 12 années avant d'obtenir le permis B qui leur donnerait droit au regroupement familial. Alors, entre-temps, la femme a vieilli aussi, hein. C'est beaucoup plus difficile de s'intégrer dans un pays différent quand tu as déjà un certain âge. Ensuite, les enfants ont grandi, certains d'entre eux ne rentrent plus dans le cadre du regroupement familial. Donc il y a le déchirement entre la mère, s'il vient rejoindre le mari, qui doit laisser les enfants, même s'ils sont majeurs, même si les enfants ont déjà 18 ans. Est-ce qu'on peut dire qu'ils sont autonomes, qu'ils sont adultes, qu'ils peuvent s'assumer? Et même dans le cas où ils puissent s'assumer, c'est aussi un déchirement familial. Et puis la mère va hésiter entre une chose ou l'autre. Et si elle choisit, parce qu'elle le doit, selon la loi et la culture du pays où ils viennent, rejoindre le mari, il y a une partie d'elle très importante qui reste là-bas.
Au tout début que vous ne vous sentiez pas typique dans la façon d'immigrer, vous étiez parti de votre propre volonté, etc. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez la sensation qu'avec l'évolution des choses aussi bien chez nous qu'en Espagne, je pense quand même, les choses ont pas mal évolué aussi en Espagne, est-ce que par exemple il y a plus de jeunes femmes qui maintenant immigrent comme vous l'aviez fait selon leur propre désir?
Je crois que d'abord l'immigration n'est vraiment pas un choix. Les gens ne quittent pas facilement les racines, il ne faut pas croire. C'est un projet donné que le fait de quitter les racines. Et moi, je pense que les femmes en Espagne aujourd'hui ont beaucoup plus de facilité pour trouver aussi un poste de travail en Espagne et pour se réaliser en Espagne. Mais c'est évident que s'ils font un choix, ils vont plus facilement sortir d'une façon personnelle et non pas pour suivre le mari comme ils le faisaient autrement. Il y a beaucoup plus de liberté à ce niveau-là, c'est évident. C'est évident.
Et qu'en est-il des filles, des mères qui, elles, ont dû suivre leur mari? Comment réagissent cette deuxième génération de femmes?
Parlant avec elles, c'est ça que tout ressort de leur conversation. Mais elles ne vont pas te le dire. Moi, l'impression que me font les filles de ces femmes-là, c'est qu'à quelque part, la manque d'ouverture des parents ne les a pas préparées pour s'ouvrir elles-mêmes au monde dans lequel elles sont. Hein. Et très souvent, malheureusement encore, la deuxième génération n'a pas été poussée par les parents, déjà assez classifiée par la société suisse et cantonnée dans certains types de professions, n'est pas assez poussée par les parents pour faire une formation cohérente et pour leur préparer un avenir beaucoup plus libre, beaucoup plus où ils puissent avoir vraiment le choix. Alors, ce qui se passe, c'est qu'elles font des formations rapides pour pouvoir sortir travailler le plus rapidement possible. Mais il y a quand même une ouverture d'esprit qui s'est faite parmi ces jeunes, parce qu'ils ont grandi à quelque part avec les gens de ce pays, et ils se sentent à quelque part de ce pays aussi. Tout en restant du pays de ses parents, ils se sentent de ce pays aussi, donc il y a quand même un vouloir être bien quelque part qui se reflète dans ces jeunes filles. Et c'est intéressant.
Ces jeunes filles de la deuxième génération, est-ce qu'elles ont envie de rentrer dans leur pays ou est-ce qu'elles veulent rester ici en Suisse?
Alors, il y en a de tout. Hein. Il y a la mémoire culturelle que leur reste des acquis de leurs parents qui fait qu'ils souhaiteraient rentrer parfois, mais surtout d'une façon folklorique, hein, pour passer quelques temps. Après, quand ils commencent à parler de rentrer, mais pour travailler, c'est vrai qu'ils se rendent compte qu'elles font partie d'une autre immigration, d'une autre culture, d'une autre éducation, d'une autre préparation, qui sont un vécu ici, qui n'ont pas eu dans leur pays d'origine. Elles sont plus d'ici que d'ailleurs, même s'ils continuent à être espagnoles ou italiennes ou autres. Alors c'est ça qui fait le déchirement après des parents. Et les parents qui sont venus avec leur projet économique et qui veulent rentrer ne se retrouvent plus suivis par leurs enfants.
Thank you. Nous évoquons la situation des femmes immigrées, être femme et immigrée, une situation passée souvent sous silence dans tous les problèmes que cela implique lorsqu'on a l'intention de vivre mieux en Suisse. Je vous rappelle que c'est aujourd'hui une première émission et que vous pourrez entendre une deuxième partie mercredi prochain dans Rue Ménage, Radio Zone 93.8. Alors après avoir parlé avec Victoria et Pilar, qui sont d'anciennes immigrantes puisqu'elles sont arrivées en Suisse il y a 20 ans, j'ai parlé avec Franca Ongarelilou, qui, par son travail, rencontre souvent des femmes immigrées. Elle est la déléguée à l'émigration dans le service d'action sociale de l'Hospice Général à Genève. Mais avant d'obtenir ce poste, elle a travaillé d'abord dans le centre social du Lignon, la banlieue de Genève pour ceux qui ne connaîtraient pas. À partir de cette expérience, elle va effectuer une recherche dans le cadre de sa formation à l'Institut d'études sociales à Genève, qui sera publiée sous le titre « Faut-il faire la folle pour être entendue ?» Faire la folle, entre guillemets. Alors, en quoi consiste cette recherche au titre pour le moins provoquant ?
Elle a rencontré des femmes italiennes, immigrées, établies depuis longtemps en Suisse, qui souffrent ou ont souffert de maladies à caractère psychiatrique, et elle a cherché à comprendre le rôle qu'a pu jouer la transplantation de ces femmes en Suisse dans l'émergence de leur dépression.
J'avais constaté en travaillant dans ce centre que un certain nombre de femmes immigrées, italiennes en l'occurrence, vivaient pendant des années ici et puis étaient tout à fait apparemment adaptées ici. Et puis, peu à peu, j'ai vu un certain nombre d'entre elles tomber malades, et malades sur le plan de dépression ou de maladies à caractère psychiatrique, ce qui a donné lieu à, effectivement, à une interrogation qui était la suivante. Est-ce qu'il y a un lien entre le fait d'être femme, immigrée et malade ? Et ce travail, qui a été mon travail de recherche en 86 à l'Institut d'études sociales, a donné lieu à une publication qui s'est intitulée « Faut-il faire la folle pour être entendu ?» Évidemment que dans « être entendu », cela pose tout de suite la question « entendu par qui ?» Mais ça, je crois que nous y reviendrons tout à l'heure. J'aimerais tout d'abord préciser de quelle immigration il s'agit. Dans un quartier, en l'occurrence, dans le quartier où je travaillais, il s'agissait d'une immigration tout à fait ancienne, c'est-à-dire qu'il s'agissait de femmes qui étaient venues durant les années 60 environ, et il s'agissait alors d'une immigration qui recouvrait quand même un certain nombre de besoins économiques, mais vraiment essentiels. Il s'agissait d'avoir des chaussures, ou bien de manger, ou d'avoir des conditions pour élever ses enfants. Il faut se reporter à ces années-là pour se souvenir que l'économie italienne à ce moment-là était déficiente. Il faut aussi se souvenir que ces personnes ont connu un climat xénophobe des années 60-70 avec les initiatives, climat qui a quand même pesé sur leur vie à Genève et qui a peut-être renforcé l'insécurité. Donc c'est une immigration qui est centrée sur le besoin, une immigration de femmes qui évidemment s'articule différemment de celle des hommes. La plupart des femmes que j'ai rencontrées ont rejoint qui le père, qui le frère, qui le mari. J'en ai aussi rencontré qui avaient formé avec leur mari le projet de venir, mais il me semble qu'elles étaient plus rares. Néanmoins, voilà ce qui m'a frappée, disons, dans leur situation. C'est qu'elles ont connu un nombre de ruptures extrêmement importantes et que l'insécurité qui est la leur et qui demeure malgré les années Je crois que c'est quelque chose qu'il faut quand même illustrer une fois, parce que l'immigration des hommes est connue à travers différentes interrogations posées au niveau des statuts ou de leur travail. C'est quelque chose qui est connu. Par contre, la vie des femmes ici, c'est quelque chose qui est tue. Qui est tue, comme la vie peut-être d'autres femmes suissesses, hein, ça alors... c'est probable, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on connaît peu. Et c'est à travers ce travail que je me suis rendu compte des difficultés qu'elles avaient rencontrées. Par exemple, si on prend l'histoire de Madame Lina, appelons-la comme ça, elle était originaire du sud de l'Italie et elle s'est mariée avec un homme d'un village proche de chez elle. Deux jours après le mariage, le monsieur a obtenu du travail en Suisse, a enfin obtenu le contrat qu'il attendait depuis des mois. Et donc, deux jours après son mariage, il a fallu qu'il s'en aille. Et il est venu ici pour gagner sa vie. Et pendant 14 mois, cette femme n'a pas revu son mari. À ce moment-là, elle s'est retrouvée enceinte de leur brève rencontre, en fait, si l'on peut dire, et elle a accouché toute seule en Italie. En étant chez elle, là, dans son milieu, je veux dire, elle n'était pas entourée par sa famille, puisqu'elle a vécu dans le village de son mari, et qu'elle a vécu son accouchement toute seule de manière tellement difficile que des années après... on peut dire maintenant 27 ans après, ce souvenir est encore si douloureux qu'elle en pleure. Ensuite, elle a fait le choix, en tant que jeune mariée, de rejoindre son mari ici. Et elle a obtenu à son tour un permis de venir retrouver son mari. Néanmoins, à ce moment-là, il lui a fallu confier sa petite fille à ses propres parents. Et là, à nouveau... Donc, c'est entre son mari et son enfant qu'elle a choisi. Et ça, c'est vraiment une condition de femme immigrée. Je pense qu'effectivement, lorsque cette femme dit aujourd'hui « Les Suissesses n'ont pas connu le départ avec la valise en laissant quelqu'un derrière elle », elle ne dit rien contre les Suissesses. Elle relève simplement comme c'était difficile pour elle. Donc si je reprends l'exemple de cette Madame Lina qui a accouché chez elle, mais toute seule, si on ajoute à cette solitude la différence que représente pour des femmes immigrées le fait d'accoucher ailleurs et dans des modèles différents, on comprend que ce peuvent être des moments extrêmement difficiles et on sait combien ils sont importants. Maintenant, je voudrais vous parler de Madame Rosa. Madame Rosa, c'est une dame qui habite ici depuis de nombreuses années. Alors qu'elle était ici depuis 12-13 ans, donc tout à fait intégrée, parlant français, apparemment tout à fait bien, il est survenu un conflit conjugal qui a fait que la famille a éclaté. Donc, la famille qui éclate, c'est quelque chose qu'on connaît ici aussi. C'est quelque chose que bien des personnes ont connu et qui est toujours douloureux. Ça, je crois que c'est quelque chose qui est général. La différence, de nouveau, si nous reprenons des modèles de femmes suissesses ou de femmes immigrées, c'est qu'est-ce qui vient en plus? Cette femme qui vivait un moment de séparation extrêmement conflictuel s'est vue reniée par sa propre famille d'origine, parce que chez elle, en Espagne en l'occurrence, on ne divorce pas. Le divorce est bien admis sur le plan légal, mais il n'est pas encore admis dans les faits, ou en tout cas pas chez elle. Et alors voilà que cette femme qui se sépare, qui cherche un soutien de la part de sa famille, ne le reçoit pas. et se trouve désormais contrainte de rester ici. Or, qu'est-ce que je constate qu'elle connaît d'ici ? Cette femme qui est là depuis des années a toujours travaillé à l'intérieur. Elle est concierge. Ça lui permettait d'élever ses enfants. Et voilà que par le même moment, elle est licenciée. Elle est licenciée, elle sait désormais qu'elle va devoir faire face à ses engagements, aux charges familiales. Elle a deux enfants. Et la personne qui l'aide à chercher du travail me téléphone. Elle me dit, mais vous savez, ce n'est pas possible que cette personne travaille. Elle pleure. Alors, évidemment, là, à quoi est-ce que ça nous renvoie, les pleurs ? Cette personne se trouve au chômage, dans une situation de séparation, on l'a vu, difficile. Elle a des difficultés avec ses gosses, c'est dur, c'est un moment vraiment difficile. Qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui par pleurer chez nous ? Est-ce qu'on entend que les pleurs, c'est de la déprime ? Est-ce qu'il faut se soigner ? Ça relève que, disons, l'expression d'une souffrance, l'expression d'une difficulté, là aussi, va différer d'un lieu à l'autre. Un deuil, ça fait mal partout. Une séparation, ça fait mal partout. Mais l'expression de la souffrance, cela veut bien dire que c'est repérable et que pleurer ou crier, eh bien, ça n'est pas d'ici. Ces difficultés que j'ai repérées là, elles ont été partagées lors d'une rencontre que j'avais organisée avec une association italienne. Et c'est vrai qu'à cette occasion, ça a été le moment de partager chacune des femmes présentes se reconnaissant dans l'une ou l'autre des épisodes que j'ai cités. Ça a été aussi l'occasion de faire le point sur les adaptations qui ont été réussies. Et c'est certainement le plus grand nombre, heureusement. Mais néanmoins, je crois que quand même, ces ruptures, chacune les a enregistrées. Heureusement que toutes ne sont pas tombées malades.
De savoir que ces femmes, des femmes, pouvaient arriver à tomber malades à cause de la vie qu'elles menaient ici, vous a en fait très fortement interpellée et vous avez décidé que ça pouvait se passer autrement, et vous avez donc décidé de consacrer votre engagement professionnel à cette question.
Je crois que nous avons un rôle de prévention important dans la détection, peut-être, de ces problèmes multiples, mais qui sont non-dits la plupart du temps. Et c'est vrai que cette préoccupation que nous avons d'être attentifs, c'est une préoccupation qui est de notre service, de l'institution. C'est une préoccupation qui est partagée actuellement dans des milieux de la santé, à l'école. Nous nous rendons compte que nous avons besoin d'outils de travail différents. En somme, l'interrogation se poursuit. Il ne s'agit pas évidemment de faire plus pour ces femmes immigrées, mais d'essayer de faire autrement.
Venite, venite tutti vestiti a festa. Fuoco, danza intorno alla mia torcia, brucia più in alto, più in alto!
Vous êtes toujours dans Remue-Ménage. Dans quelques instants, la suite de notre dossier sur le thème « Être femme et immigrée ». Vous écoutez Silvia Malagugini, une chanteuse italienne. Silvia Malagugini est une chanteuse italienne immigrée en France. Elle nous aide peut-être à mieux comprendre ce qui se passe aussi pour les femmes en France qui décident d'émigrer. C'est un magnifique disque, l'Intro Magico, qui raconte l'histoire des femmes qui se font piquer par la tarentule et qui profitent de cette piqûre terrible pour extérioriser tout ce qu'elles ressentent, peut-être ce qu'elles vivent lorsqu'elles sont immigrées.
Lardo vecchio, pergottatelo ben bene e datelo da mangiare una brigata da stomi. Su, su, cavalier d'onore, di cui si salta il periglioso d'arco. Questa è la vera via dei mestri di Marghera, ove entro era caldara dei maccheroni e le brache del Gonnella, sapientissimo filosofo.
Remue-Ménage, Radio Zone 93.8.